Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MTV. Les journalistes m'intéressent.
You are fake news. Hello.
Bonjour à tous. L'instant M passe les médias à la Moulinette.
Non.
Vous êtes en direct, allez-y.
Il est temps d'en finir avec une insupportable ingratitude. Il est temps de se souvenir d'une femme qui aimait la France plus que tout, mais que la France a oublié. Elle s'appelait Janet Flanner. C'était une journaliste américaine, correspondante à Paris pour le New Yorker pendant un demi-siècle, s'il vous plaît. Dans des chroniques brillantes, elle a raconté la France du siècle dernier aux Américains entre les années 20 et les années 70. Janet Flanner était une femme libre, féministe, une pionnière. Elle a inventé le journalisme littéraire bien avant Truman Capote, bien avant Tom Wolfe. S'intéresser à sa vie, c'est ausculter tous les soubresauts du siècle dernier et c'est aussi se plonger dans l'histoire d'un grand journal, connu pour son ton unique, ironique, sophistiqué, snob, diront certains, le New Yorker.
L'instant M. Dorothée Barba. Sur France Inter.
Bonjour Michel Fitoussi.
Bonjour Dorothée Barba.
Journaliste et écrivaine, ancienne éditorialiste au magazine Elle, c'est vous qui réparez cet oubli de notre mémoire collective en publiant ce livre intitulé Janet aux éditions Jean-Claude Lattès. Alors on va en parler bien sûr dans un instant. D'abord une question d'actualité. Je m'adresse à l'ancienne journaliste à Elle. Vous y avez passé une trentaine d'années, je crois. Elle a été rachetée il y a quelques mois par un milliardaire tchèque, Daniel Kretinsky, qui fait une offensive assez impressionnante sur la presse française. Est-ce que vous êtes inquiète pour ce journal et pour tout ce qu'il représente dans l'histoire de la presse française?
Comment ne pas l'être? Évidemment, on va juger sur pièce et pour l'instant, on ne sait pas du tout ce qu'il va faire et ce qu'il compte faire de ce journal. Mais oui, bien sûr, je suis un peu inquiète parce que Elle, c'est quelque chose. C'est pas seulement un titre. C'est l'histoire de la presse féminine. Il a été créé après la guerre. Il y a une transmission dans ce journal, une transmission de journaliste à journaliste. C'est moi comme ça que je l'ai vécu. J'y ai passé des années merveilleuses. C'était un journal formidable. Voilà, quand il passe aux mains de quelqu'un qu'on ne connaît pas, dont on ne sait pas ce qu'il va en faire, bien sûr qu'on se demande s'il va garder cette marque, ce ton, cette ambiance dans ce journal féminin.
Il faut rappeler que Daniel Kretinsky a aussi racheté Marianne et qu'il s'intéresse au journal Le Monde.
Absolument.
Après tout, un homme d'affaires tchèque ou français, quelle différence ?
J'en vois pas. S'il aime la presse, formidable, hein, tant mieux. Voilà, on va attendre. Pour l'instant, c'est normal d'être un peu inquiet. Les journalistes du Monde le sont. J'imagine que ceux de Elle le sont également.
Des inquiétudes aussi du côté de Grazia, hein, propriété de Mondadori, qui devrait bientôt être vendu au groupe Reworld. Reworld, dont on dit qu'il a la fâcheuse tendance de se passer de journaliste.
C'est ça. Et ça, c'est très inquiétant, parce que c'est vraiment la nouvelle tendance. J'ai lu avec attention ce que Reworld et les dirigeants de Reworld faisaient des journaux. Bon, ils les vident de leur contenu. Il n'y a plus de journalistes. Il n'y a même plus de journalistes qui ont des cartes de presse.
Des chargés de contenu. Hein,
voilà, chargés de contenu, des pigistes payés encore au lance-pierre, encore plus mal que ne le sont les jeunes journalistes aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment très fâcheux. Grazia est un très bon journal et je serais vraiment désolée qu'il perde son âme, qu'il perde son contenu. J'espère que ça n'arrivera pas à Elle.
Il y a aussi du football dans l'actualité des médias. La roue tourne à tourner, comme dirait Franck Ribéry. Canal+ récupère les droits de diffusion de la Première Ligue, le très prestigieux championnat de football anglais, avec ses Paul Pogba, N'Golo Kanté et Eden Hazard. Canal+ respire un peu après avoir perdu la Ligue 1 et la Ligue des Champions. C'est RMC Sport, un propriété du groupe SFR qui lui avait chippé le précieux foot anglais en 2015. Retour annoncé des matchs sur Canal en août prochain. Alors si vous aimez le foot, il faut aujourd'hui être abonné à RMC Sport pour la Ligue des Champions, à beIN Sport et à Canal+ pour la Ligue 1 française. Et dès l'année prochaine à Canal+ pour la Première Ligue. Ça fait un peu cher. Il est écrit « roman » sous le titre, mais c'est bien une biographie qui repose sur une enquête solide. Janet, le nouveau livre de Michel Fitoussi, raconte le destin hors du commun d'une grande journaliste américaine, arrivée à Paris dans les années 20 et qui est morte dans les années 1970. Pourquoi a-t-on oublié Janet Flanner, Michel Fitoussi ?
Alors c'est la question que je me suis posée. C'est vrai que moi, je ne la connaissais absolument pas.
Moi non plus, j'en avais jamais entendu parler avant de lire votre livre. Hein.
Je l'ai rencontrée en écrivant une autre biographie. C'est toujours intéressant de prendre des chemins de traverse quand on écrit sur les autres. Et voilà, elle m'a intéressée, elle m'a intriguée. Puis je me suis dit, mais pourquoi je ne la connaissais pas ? Donc j'ai cherché un petit peu. Je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que c'est parce que c'était une journaliste femme ? On se souvient de Truman Capote, on se souvient de Tom Wolfe, évidemment, de Geta Lisi un peu moins, de Johnny John Didion. Non, John Didion était une femme, donc c'est pas ça. Est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas écrit de livres, elle ne les a pas laissés à la postérité?
Elle en a écrit un, mais c'est pas un grand livre.
C'était un roman, c'était pas un grand livre. Pourtant, c'était une très grande journaliste. Elle a reçu le National Book Award pour un de ses recueils d'articles. Elle était très célèbre en son temps et c'était vraiment une des plumes, une des grandes signatures du New Yorker.
Donc, vous n'avez pas de réponse?
Il n'y a pas de réponse. Alors, mes amis américains la connaissent, ceux qui lisent le New Yorker, donc ceux dont les parents lisaient le New Yorker. Celles de mes amis qui ont étudié à la fac de lettres en particulier, connaissaient Janet Flanner. C'est un nom qui n'est pas inconnu aux États-Unis, mais qui n'est pas non plus extrêmement connu. Et en France, alors, pas du tout. Et chaque fois que quelqu'un lit mon livre ou m'en parle, on me s'excuse en me disant « mais je suis désolée, je ne la connaissais pas ». Ne vous excusez pas, lisez le livre et rencontrez-la.
Moi, j'ai cru que c'était un livre sur Janet Jackson, forcément, puisque c'est intitulé Janet. On écoute sa voix, Janet Flanner.
The first thing about writing is the extreme pleasure for the writer. Reading and writing have been my life, and part of the most exciting development in the life has been the excitement of writing.
Quel accent délicieux. Le plus important au sujet de l'écriture, dit-elle, c'est le plaisir extrême de l'écrivain. La lecture et l'écriture ont été toute ma vie. Et les moments les plus passionnants de ma vie sont liés à l'exaltation de l'écriture. C'est elle qui a inventé le journalisme littéraire, Michel Fitoussi.
Alors, j'exagère un tout petit peu en le disant.
On en rajoute un peu.
En rajoute un peu, évidemment. Elle dit d'ailleurs elle-même, dans la préface de son premier recueil d'articles, Une Américaine à Paris, qui a été publiée en 1940, elle parle de Jules César comme inventeur du journalisme littéraire.
Premier correspondant à l'étranger, voilà,
exactement,
Jules César.
Puisqu'il écrit La guerre des Gaules et il raconte sa conquête de la Gaule. Non, bien sûr, il y en avait avant elle, il y en avait aux États-Unis, il y en avait en France. Et moi, je crois qu'elle a été inspirée par Georges Simenon. Elle a, à sa suite, écrit sur l'affaire Stavisky dans les années 30. Elle a écrit des grands procès comme Simenon. Je pense qu'elle avait dû lire Albert Londres et Joseph Kessel. Et puis, aux États-Unis, bien sûr, les premiers journalistes littéraire qui existait. Je crois que c'est une vraie tradition qui date du 19e siècle et qu'elle en est la continuatrice. Simplement, pour le New Yorker précisément, elle a été une de celles qui ont introduit le journalisme au long cours, ce journalisme écrit, ce journalisme où on ne fait pas d'immédiateté, d'actualité. Elle a mis 2 ans à écrire un portrait de Pétain, ce qui est quand même formidable et qui nous fait rêver.
Beaucoup de journalistes aujourd'hui se donneraient pour obtenir ces conditions de travail. 2 années entières pour écrire ce portrait du maréchal Pétain, qui était titré en français d'ailleurs dans le texte, La France et le vieux.
La France et le vieux, elle le détestait, évidemment. Elle le détestait pour ce qu'il avait fait à la France. Elle était réfugiée aux États-Unis à cette époque, où elle a passé les années de la guerre. Et le patron de la revue, enfin le patron du New Yorker, Harold Ross, lui a demandé un portrait de Pétain. Et elle a mis 2 ans à l'écrire. Elle a fait une enquête très serrée. Elle a lu des tas de livres. Elle a rencontré des tas de gens. Il a été publié en 4 volets dans le New Yorker, ce qui était assez, assez rare, hein, parce que c'était pas du tout la came, entre guillemets, du New Yorker à cette époque. Et elle a contribué, elle, à ce que le New Yorker publie des articles pareils, des articles de fond.
À une revue qui lui demandait dans les années 20, qui demandait d'ailleurs à plusieurs auteurs de répondre à cette question. Qui aimeriez-vous être? Janet Flanner avait répondu, je voudrais être la voyageuse de mon siècle.
C'est ce qu'elle voulait être.
Et c'est bien ce qu'elle est devenue, Michel Fitoussi.
C'est exactement ce qu'elle est devenue. Elle est arrivée à Paris dans les années 20. Elle fuyait cette Amérique un peu puritaine qui l'empêchait de vivre son homosexualité au grand jour. Elle est venue avec sa maîtresse et qui sera sa compagne pendant toutes les années jusqu'à sa mort, Solita Solano, bien qu'elle ait eu d'autres amours contingentes.
Je précise d'ailleurs, c'est pas vraiment notre sujet aujourd'hui, mais que sa vie privée est passionnante. Vous la racontez en détail dans ce livre, c'est très romanesque.
Hein. Très romanesque aussi. Et elle est arrivée avec tous ces Américains à Paris. Elle était journaliste elle-même. Elle avait commencé à l'Indy Star, à Indianapolis, quand elle était très jeune, en 1917. Et elle rêvait, bien sûr, comme tous ces Américains à Paris, qui sont arrivés en masse juste après la guerre, d'écrire, de devenir un écrivain célèbre, de vivre comme une femme libre. Et ça, c'était vraiment fascinant, et d'écrire et de publier. Et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée à Paris en 1922 avec Solita.
Certains de ses articles sont même prémonitoires parfois.
Elle a commencé à écrire pour le New Yorker en 1925 parce que son amie Jane Grant, qui était la femme d'Harold Ross, le créateur du New Yorker, le lui a demandé. Elle a commencé effectivement par écrire des articles brillants sur la France, sur Paris, sur les Français tels qu'ils étaient, tels qu'ils se voyaient, et non pas tels que vous les voyez, chère Janet, lui avait demandé Harold Ross. Et puis ensuite, elle a compris que ce Paris qui était une fête dans les années 20 n'allait pas durer, que cette France heureuse n'allait pas durer, que cette Europe merveilleuse n'allait pas durer. Et très vite, elle a vu bifurquer le spectre du, elle a vu arriver le spectre du fascisme et du nationalisme en Europe.
Et quand elle propose un portrait d'un certain Adolf Hitler, on lui répond qu'on ne sait pas si ce monsieur mérite plus de 4 lignes dans le New Yorker.
Ross, le fondateur du New Yorker, qui surtout pour lequel le mot politique était un mot grossier, lui voulait un journal snob, un journal différent, un journal d'humour, un journal de fiction aussi, de reportage, mais surtout pas un journal politique. Et il comprend pas pourquoi Janet Flanner, qui va en Allemagne à partir des années 30, en 31, la première fois qu'elle va en Allemagne, et qui comprend que l'Allemagne est en train de devenir un pays un peu dangereux, elle était déjà allée dans sa jeunesse, quand elle lui dit « il faut parler d'Hitler », il se dit « mais non, parlez plutôt de Gertrude Stein qui va venir faire une grande tournée aux États-Unis pour son dernier livre. Hitler, c'est pas très intéressant. » Mais elle s'obstine.
Écoutons encore Janet Flanner qui parle des droits des femmes.
This was an enormous experience in my life, the sense of feminism, the sense of struggle, of success in obtaining through my work a determined improvement in the little corner of local society where I existed.
Ce fut une expérience immense dans ma vie, dit-elle. Le sens du féminisme, le sens de la lutte pour obtenir à travers mon travail une amélioration dans chaque recoin de la société où je passais. On se dit en lisant votre livre que c'était une femme libre avant tout, jusqu'au bout des ongles. Hein, et on se dit presque qu'une telle liberté manque cruellement aujourd'hui.
C'est vrai, c'est très admirable. Elle ne voulait pas d'enfants. Elle a été mariée très peu. À un homme formidable d'ailleurs qui a compris qu'elle ne l'aimait plus, qu'il l'a laissé partir. Elle ne voulait pas d'enfants. Elle a vécu à l'hôtel toute sa vie. Rive gauche d'abord, puis rive droite ensuite. Elle ne voulait pas s'encombrer. Et surtout, elle est arrivée en France, à Paris, dans un Paris qui était certes une fête, comme le disait son meilleur ami, Ernest Hemingway, mais qui était aussi une femme. Et Paris était une femme parce que beaucoup de femmes, beaucoup d'Américaines, certaines homosexuelles, la plupart, mais pas toutes, étaient là, tenaient des salons, Nathalie Barnet, Gertrude Stein, Alice Toklas, les libraires, Sylvia Beach et Adrienne Monnier, de Shakespeare et compagnie, et de la librairie des Amis des Livres, Nancy Cunard, qui était une de ses meilleures amies, Juna Barnes, toutes ces femmes, et d'autres encore, formaient une espèce de groupe à Paris. Elles se connaissaient les unes les autres, elles allaient les unes chez les autres. Et elles étaient très solidaires, elles étaient brillantissimes, elles écrivaient, elles publiaient des revues. Et toutes ces femmes-là étaient évidemment féministes. Et c'est comme ça que Janet Flanner aussi a apporté sa coup de part au féminisme.
Elle a été beaucoup racontée, hein, cette histoire des Américains qui se pressent à Paris dans les années 20. Et pour le coup, là, on a oublié les femmes. C'est une histoire de femmes.
C'est aussi, et c'est beaucoup une histoire de femmes. Et elles étaient vraiment extrêmement brillantes. Juna Barnes, écrivain, bien sûr, mais aussi journaliste pour Vanity Fair, qui écrivait des articles et qui n'hésitait pas à se mettre en danger. Nancy Cunard, qui part couvrir la guerre d'Espagne pour le Manchester Guardian. Bien sûr, Nathalie Barnet, l'Amazon. Bien sûr, Gertrude Stein. On les oublie. On les a oubliés et on se demande pourquoi elles aussi, on les a oubliées.
Alors, ce qui est passionnant, on l'a compris aussi dans votre livre, Michel Fitoussi, c'est qu'il raconte l'histoire de ce journal, le New Yorker, dont Janet Flanner était la correspondante. Comment pourrait-on le définir ? C'est un magazine amusant, sophistiqué, ironique. Est-ce qu'il est snob ?
Je crois qu'il est un peu snob et un peu élitiste.
C'est assumé.
C'est ce que voulait Harold Ross au début.
Le fondateur qui est le mentor de Janet Flanner.
Qui est le mentor de Janet Flanner, un de ses mentors. L'autre étant le successeur d'Harold Ross, William Schoen, qui est arrivé en 1951 au décès d'Harold Ross. Harold Ross voulait un journal qui ne soit pas tout à fait Vanity Fair, qui soit mieux encore que Vanity Fair. Il voulait un journal pour les New-Yorkais. Il avait compris que l'émergence d'une classe moyenne après la guerre ferait de ces gens qui avaient un pouvoir d'achat important et qui voulaient absolument faire partie de l'élite tout sans en être. Il voulait leur donner un journal. Et quoi de mieux que ce journal qu'il allait leur raconter New York, mais pas seulement New York, qui allait aussi leur ouvrir une fenêtre sur le monde. Et c'est comme ça qu'il propose à Janet Flanner en 1925 de devenir sa correspondante à Paris et de raconter la France comme les Français la voyaient.
C'est bien ça l'ambition du New Yorker, de donner finalement l'illusion à la classe moyenne qu'elle fait partie de l'élite.
C'était en tout cas son ambition à ses débuts et l'ambition de son fondateur. Mais je le rappelle encore une fois, surtout pas de politique, alors que ce journal est devenu un journal éminemment politique, qu'on lit avec grand plaisir, qui est un des grands pourfendeurs de Trump aujourd'hui, qui a reçu des prix pour ses actions politiques. À l'époque, il n'en était absolument pas question. Et Janet Flanner a fait partie de ceux qui ont poussé Harold Ross dans ses retranchements et qui l'ont dit, il faut absolument évoquer ce qu'est l'Europe et ce qu'est l'Europe aujourd'hui, dans les années 30. On ne peut pas en faire l'économie.
Et je vous recommande le numéro du New Yorker de cette semaine, dans lequel à la une, on voit un dessin de Mark Ulrichsen, Donald Trump qui fait peur à des enfants pourtant déguisés en monstres. Très beau dessin dans des teintes orange, évidemment, pour Halloween. Le New Yorker est un monument et c'est pas un certain Sampé qui nous dira le contraire.
Vous savez, le New Yorker, c'était une institution et là, il y avait tous les dessinateurs, presque tous les dessinateurs que j'ai adorés. Et grâce à ça, j'ai pu les rencontrer. C'était un événement extraordinaire pour moi. C'était le temple des dessinateurs humoristes.
Voilà, Sampé chez Pivot dans Bouillon de Culture en 93.
C'était très important pour Harold Ross, le fondateur du New Yorker, les cartoons, les dessins. Et ça faisait vraiment partie de l'âme du New Yorker, les dessins et les couvertures auxquelles il consacrait une immense attention. C'est lui l'inventeur de la seule ligne de légende.
Seule ligne, pas plus, la légende. Voilà. J'aime beaucoup ce que vous écrivez sur Harold Ross. Il prenait l'humour tellement au sérieux que rien ou presque ne le faisait rire.
C'est vrai. On se moquait un peu de lui dans les couloirs du New Yorker. On racontait ses manques, ses questions naïves, ses colères aussi. Il ne supportait pas la moindre coquille dans son journal. Il adorait les mots, il adorait la précision du style. Il a beaucoup aidé Janet Flanner à devenir la grande journaliste. Elle était déjà brillante. Elle avait déjà un style formidable. Elle avait un style classique, un style extrêmement précis. Mais il a beaucoup aidé à devenir ce qu'elle est devenue.
Janet Flanner devient, à la fin de sa vie, une vedette du petit écran. La télévision, écrivez-vous, le fit plus pour sa renommée auprès du public que 50 ans de presse écrite. Là-dessus, rien n'a changé.
Rien n'a changé. Elle se retrouve au Dick Cavett Show, juste après l'apparition d'un de ses recueils d'articles. Elle est avec Norman Mailer et Gore Vidalli. Et ils s'engueulent sans la calculer, sans la compter. Et tout d'un coup, avec cette voix qu'on vient d'entendre, cette voix un peu rauque, cette voix voilée par les cigarettes et l'alcool.
Autoritaire.
Elle leur dit, gentlemen, I'm bored. Je m'ennuie. Vous m'ennuyez beaucoup. Mais ils la regardent. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais écoutez, vous parlez entre vous, vous adressez pas au public, pas à moi, ça suffit. Genre, elle siffle la fin de la récré, quoi. De la récré, et c'est très drôle. Dans la salle, les spectateurs jubilent, et évidemment, devant leur poste de télévision, les gens l'adorent, et elle devient une vedette à New York, ce qu'elle n'avait jamais été.
Merci beaucoup, Michel Fitoussi. Janet, au passage, pourquoi simplement le prénom dans le titre? Est-ce que c'est pas une manière, comme on fait pour les femmes politiques, de réduire les femmes à un prénom?
En réalité, elle a toujours publié sous pseudo, Jeanette. C'était Harold Ross qui lui avait trouvé ce pseudo. Moi, je trouvais qu'il fallait lui rendre son prénom. Voilà.
Mais elle s'appelait Janet Flanner. Et ce livre est passionnant. C'est aux éditions Jean-Claude Lattès. Merci beaucoup, Michel Fitoussi.
Merci.
Et voici Julia Foyce qui vous accompagne jusqu'à 11h sur France Inter. Bonjour, Julia.
Bonjour, tout le monde.
On va demander aux auditeurs de mettre 5 étoiles à l'émission Grand Bien vous fasse sur le site de France Inter.
On peut monter à 10.
Non, je crois que c'est 5 maxi.
Oui, ce matin, on parle du vrai pouvoir des avis clients. Vous savez qu'aujourd'hui, tout est sous-pesé, noté, évalué. On va se demander, dans Grand Bien vous fasse, que ça change, en fait, dans nos habitudes de consommation.
10/10 pour Julia Foyce et c'est juste après la pub.
20/10.
Allez.